Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus. Te connais.
Bien-aimés en Christ, recevez nos salutations fraternelles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ravis de vous savoir en pleine forme et toujours fidèles au poste pour à l'heure de cette émission. Vous est-il arrivé des fois dans votre marche avec Christ de ne pas savoir pourquoi ça ne marche pas, de ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas, ça ne marche comme vous le souhaitiez, chers amis? Ne nous voilons pas la face. Il nous est arrivé à un moment donné de notre marche avec Dieu de vivre des temps pareils, de ne pas comprendre ce qui nous arrive et pire, de ne pas comprendre pourquoi apparemment rien ne marche dans nos vies. Bien-aimés, mes chers frères et sœurs en Christ, vous vivez actuellement une situation similaire. Je vous invite, ou du moins nous vous invitons, à suivre l'émission de ce jour jusqu'à la fin. Le Seigneur, car le Seigneur à la solution pour vous. Chers auditeurs, voici pour vous la chanson que nous allons étudier à l'heure de cette émission.
Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas malgré tous les efforts que je fais.
Je ferai comme il veut, un chant interprété par le groupe Jude 25. Il est constitué tout juste de deux strophes et d'un refrain. D'ailleurs, avec votre permission, je vais convier l'autre Laurent qui est avec nous de nous donner lecture des paroles de la chanson. Mais bien avant cela, l'autre Laurent, bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment vas-tu?
Oui, ça va.
On se tient, tout se passe par la grâce de Dieu.
Mm-hmm.
Très bien. Alors, on va aller à la découverte des paroles de la chanson de ce jour. Je ferai comme il veut.
Ok, premier couplet. Quelquefois, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors, je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui, j'y arriverai. Refrain. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Deuxième couplet. Souvent, je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là. Mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois, ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution.
Je ferai comme il veut. Les chansons de Jules Vincent qui étaient jouées sur cette antenne à ses débuts. Et Jules Vincent, l'autre Laurent, est-il toujours opérationnel? C'est la première question que je voudrais te poser.
Bon, dans l'état actuel de mes connaissances, je crois que les auteurs ont pris de l'âge.
Certainement.
Et je n'ai pas souvenance d'une récente prestations publiques ou que ce soit. À mon niveau, je ne sais pas. Mais là il faut ajouter le fait que Dominique et Elsbeth Fontaine ont été impliqués dans la musique, surtout la musique country, depuis un grand nombre d'années. Et là, tout au début, avec leurs 4 enfants.
Okay.
D'accord. Et puis dans les années 90, le couple a dû continuer leur ministère en duo, et c'est là où ils ont pris le nom Jude 25. Parce que pendant 25 ans, Dominique, le mari, a été pasteur à La Chaux-de-Fonds en Suisse, puis à Lausanne, jusqu'en 2019. Et ils ont à leur actif une quinzaine d'albums. dont plusieurs sont épuisés, vous ne les trouverez presque plus dans les maisons où l'on se procure. À l'époque, c'était les disques, les cassettes et tout le reste. La plupart de ces albums sont des témoignages émouvants et des récits de l'œuvre de Jésus sur la croix. Et chaque fois qu'on les écoute, on ressent cette joie d'entendre en musique la simplicité du message de l'Évangile, un message vrai et toujours pertinent. En 2019, lors d'une interview, Dominique et Elsbeth Fontaine ont retracé les 40 ans du groupe Jude 25 et ils ont dit ceci. Au départ, nous étions deux couples, la sœur d'Elsbeth, Ursula, ainsi que son mari, Eduardo. Et puis nous, c'est-à-dire Dominique et Elsbeth. Puis les enfants sont arrivés et tout naturellement, nous sommes devenus Jude 25 en famille, explique Dominique. Et maintenant, c'est Dominique et Elsbeth qui continuent le ministère musical. Voilà, les informations que j'ai à leur sujet.
Très bien, des informations très très riches et très importantes. Et c'est vrai que en écoutant ce groupe-là à l'époque, au début de cette radio, vous n'êtes pas sans savoir que cela nous faisait du bien. Et en écoutant leurs chansons, on apprend quelque chose, hein, ou du moins on reçoit un message. Un message est véhiculé au travers des chants de Jude 25. Et cet après-midi, on va encore trouver dans ce que nous allons étudier, on va trouver un message, un puissant message pour les chrétiens. Et l'autre Laurent, avec ta permission, on va réécouter le chant. On va réécouter le chant et juste après, derrière, on va passer aux commentaires. On y va avec Je ferai comme il veut. Pourquoi, quelquefois, ça ne marche pas, malgré les efforts fournis? L'autre Laurent.
Bon, avant de répondre à la question, je vais rappeler aux auditeurs que Jude 25, ça fait partie du Nouveau Testament. et il est expressement écrit là-bas à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans les siècles, dans tous les siècles. Amen. Donc là, à la question posée, pourquoi quelquefois ça ne marche pas malgré les efforts que nous faisons, nous ne devons pas oublier que la vie chrétienne est un appel à vivre par l'esprit, tout en sachant que la chair est tout aussi active dans notre vie parce qu'elle fait partie intégrante de notre nature. Là, si nous comprenons la chose comme cela, ça va nous aider. Jésus a introduit la nouvelle humanité, celle dont l'existence vient de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et cette naissance est l'œuvre de l'esprit. Nous naissons par l'esprit. Donc, disons que dans l'histoire de l'humanité, il y a deux types de naissances. Une naissance naturelle, 9 mois de gestation, et puis nous venons au monde, pour certains, exceptionnellement, certains font plus de 9 mois avant de venir au monde. Mais dans tous les cas, nous venons au monde par le biais de nos mamans. D'accord? Ça, c'est la naissance naturelle. Maintenant, et cette naissance naturelle relève du fait que Adam est le père de la première humanité. D'accord, il a connu sa femme, qui a connu, qui ont donné des enfants, donné des enfants, ainsi de suite. Mais dans cette nouvelle humanité a sa particularité foncière, en ce que ça doit être l'œuvre de l'esprit. Si le Saint-Esprit ne vous fait pas naître, vous n'êtes pas né de nouveau. Alors donc en venant au monde, selon le programme de Dieu, très tôt dans la vie, nous constatons qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre ancienne nature cherche à s'exprimer, parce qu'on a toujours été comme cela. Dans Galates chapitre 5, il est dit ceci, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça voudrait dire que pour pouvoir évoluer avec Dieu, c'est moi en tant que personne rachetée par Christ qui choisit de me soumettre à l'esprit et de refuser les propositions faites par la chair, les désirs et les désidératas de la chair, mais je choisis d'obéir à l'esprit. Quand bien même, parfois, ce choix d'obéissance à l'esprit m'attirera d'une certaine manière de l'incompréhension, de l'ostracisme et beaucoup d'autres choses. Tout simplement parce que je choisis de vivre comme un être recréé, une nouvelle créature. Donc, là, on entre dans le contexte de l'expérience de notre insuffisance. Nous faisons des efforts par nous-mêmes. Et ça ne marche pas. Parce que, justement, nous n'avons pas encore compris que nous devons nous appuyer sur ce qui nous a donné cette vie, nous appuyer sur l'esprit pour pouvoir évoluer avec Dieu.
Oui, très bien. L'autre Laurent, c'est compris. Mais est-ce à dire, je vais voir un autre aspect de la question, est-ce à dire à ce niveau que Jude 25, en composant ses paroles, avait pour intention de nous dire ceci. J'essaie de fournir un effort par moi-même, et mais je constate que ça ne marche pas.
Oui, mais bien sûr, c'est l'expérience de tous les chrétiens au début de la marche. Au début, on arrive à on se cherche.
Oui.
Et cette nouvelle vie-là, qu'est-ce que cela a comme condition à remplir, comment l'amener, ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est à cela que Paul a fait allusion dans Romains chapitre 7. Le chapitre 7 nous montre le chrétien qui essaye de, par ses propres efforts, de marcher avec Dieu, d'être agréable à Dieu. Là, nous ne sommes pas en train de parler de la paresse, de dire que, ok, Jésus, je suis comme quelqu'un qui est assis dans un tricycle, le conducteur est là, bon, qui me conduit, c'est pas de cela qu'il est question ici. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Et moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc vous voyez, le principe directeur relève de notre monde, le monde de l'esprit. La loi est spirituelle. Maintenant, cette loi-là doit agir dans la vie de quelqu'un qui, naturellement, est vendu au péché. Et donc, la personne doit se soumettre à l'Esprit de Dieu pour que la loi de l'Esprit de Dieu, qui est spirituelle, puisse fonctionner comme cela se doit. Car je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. C'est ce qui arrive lorsque la personne essaye et puis rentre dans le mur et se rend compte que non, ça ne marche pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. La faute n'est pas du côté de la loi. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. La nature déchue que nous avons héritée d'Adam, elle est là et elle veut à chaque fois reprendre du service. D'accord? Et donc il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de bien faire. D'accord? La volonté est là. La volonté est une des composantes de l'âme humaine. La volonté est là, mais le pouvoir pour pouvoir surmonter le péché, ce pouvoir-là, si Christ ne vous l'accorde pas, vous allez flancher à chaque instant devant la même tentation et vous allez dire que c'est une malédiction, c'est pas une malédiction, c'est parce que vous n'avez pas encore compris l'essence de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que Christ vient vivre en moi, en vous, par son esprit. Et donc, ce qu'il faisait quand il était dans les plaines de la Palestine, dans telle contrée, il veut refaire la même chose, mais cette fois-ci, nous lui servons d'habitat. C'est pour cela que l'Écriture dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, apprendre à dépendre entièrement du Seigneur n'est pas chose aisée. C'est un apprentissage à vie. C'est un choix délibéré que je fais de vivre par l'Esprit, en comptant sur le Seigneur. Et vous remarquerez, dans Romains chapitre 8, verset 13, Paul dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Il est radical, hein?
Oui. Non, mais c'est ce qui est arrivé à Adam et à Ève.
Okay.
Ils ont choisi de faire ce qui est contre la loi de l'esprit. Ce que Dieu leur a dit, c'est ce qui était la force même de leur vie. Et quand ils l'ont fait, ils étaient morts. Parce qu'il a dit, le jour où vous allez choisir de vivre, vous allez mourir. Et ils étaient morts. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça veut dire que vous refusez au corps de s'imposer à vous. Frère, vous n'avez pas besoin que votre église locale décrète une semaine de jeûne, deux semaines de jeûne, tel nombre de jours de jeûne avant que vous ne fassiez le jeûne. Quand on devient chrétien et que dans notre marche, à un moment donné, on a comme l'impression que la chair veut prendre le dessus, vous devez commencer par choisir des moyens pour mortifier la chair. C'est ça la vie chrétienne normale. On n'en parle pas aujourd'hui. Tout n'est pas que musique et danse et saute ça et là. Non. Vous choisissez d'affamer la chair pour que l'esprit prenne de la vigueur. Vous lisez la parole de Dieu, vous méditez la parole de Dieu. Il y a des moments où vous devez vous éloigner des gens. Vous éloigner de certaines choses, de chercher à communier avec Dieu. Quand vous sortez de ce lieu-là, vous allez voir que vous avez plus de force qu'auparavant. Dernier élément, dans Romains chapitre 7, là l'apôtre Paul nous montre que nous ne sommes pas sans le secours divin. D'accord? Quand il a dit, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» C'est l'expérience de plusieurs, ça. C'est-à-dire que la personne fait semblant d'être spirituelle, d'être ceci, mais il y a un péché là, il y a un domaine là où quand ça arrive, là on commence par flancher. Là il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pour cela que l'auteur dit, j'ai dans le ciel un ami. D'accord? Donc c'est le Seigneur Jésus qui nous donne la force d'avoir la victoire sur le péché, d'avoir la victoire sur le monde, d'avoir la victoire sur la chair, d'avoir la victoire sur la puissance des ténèbres. Vous voyez? Si vous criez que vous avez la victoire sur les démons, vous les commandez, priez à haute voix, vous faites ceci, et que intérieurement vous êtes dans un état lamentable, votre prière n'a aucun effet. On a connu, hein, quand on était jeune, des séances de délivrance, tout ça là où, à un moment donné, il y a des frères qui ont chassé des démons et les démons leur ont dit, non, moi je vais nulle part. Mais pourquoi? Oui, mais parce que tu vis dans tel péché. Tu vois? Parce que dans le monde spirituel, tout se sait. Vous ne pouvez rien cacher. Vaut mieux trouver en Christ un refuge, marcher avec lui, laisser l'esprit nous diriger. Sinon, il ne sert à rien même de chercher à donner l'impression d'être ce que vous n'êtes pas. Tout se sait sur le plan spirituel. Donc, ici, l'auteur nous raconte l'expérience d'un chrétien qui veut par lui-même se prendre en charge dans sa marche avec Dieu.
Oui, l'autre Laurent, mais qu'est-ce qui coince? Je ne sais pas si tu as déjà répondu à la question, ou bien je ne sais pas, qu'est-ce qui coince dans ce cas? Qu'est-ce qui fait coincer qu'on est toujours bloqué?
Oui, mais là, j'avais expliqué tout à l'heure que le fait que d'un côté, il y a l'esprit qui veut agir, et de l'autre côté, la chair qui veut agir, ça crée une situation de malaise. D'accord? Parce que le nouveau mode de vie que nous sommes appelés à adopter est contraire à notre nature humaine, à notre vie naturelle. D'accord? Et j'avoue qu'il n'est pas facile de se soumettre au Saint-Esprit. Il n'est pas facile. Il y a des moments où, en tant qu'être humain, tu veux faire ça, mais quand ce qu'il te dit est contraire à ce que toi tu veux. Et là, lorsque je choisis d'obéir à l'Esprit de Dieu, je grandis. Mais quand je refuse d'obéir à l'Esprit de Dieu, et il a parlé à ma conscience, il a touché mon être pour me faire savoir que non, c'est ce qu'il veut. Si je fais le contraire, au lieu de faire du surplace, je recule. Sur le plan spirituel, je recule. Il y a des gens même qui... Tu tombes et là, pour te relever après, ça va prendre du temps. Donc tu vois, donc c'est ça qui fait que les gens se demandent si en tout temps, après les avoir sauvés, Jésus les a laissés tomber. Non. Aussi longtemps que vous ne vivez pas délibérément dans le péché, il est toujours à l'intérieur de vous. Il habite votre esprit, il habite mon esprit, par son Esprit Saint. Et c'est à partir de là qu'il oriente notre vie, qu'il nous dirige.
Très bien. Je lis la partie, la première strophe. Quelquefois, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors, je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel. Et avec lui, j'y arriverai. J'ai un ami dans le ciel.
Ouais.
Et avec lui, j'y arriverai.
Ouais.
C'est comme si entre-temps, il avait oublié l'ami.
Mais
il a perdu les repères.
Tu sais, notre nature déchue est très subtile. Je me souviens, je peux même me retrouver l'endroit exact. Un jour, je marchais comme ça, vers Bec. Quand tu quittes le marché, tu vas vers Ora Labora, tout ça là. Je peux retrouver l'endroit où, dans ma conversation avec Dieu, je lui ai dit, maintenant que je suis sauvé, que le ciel m'est garanti, est-ce que tu peux me prendre comme ça? Je quitte la terre, je vais au ciel. Il me demande si tout le monde partait comme ça, qui va prêcher à qui? tu vois, parce que qui a en nous ce désir de tout ramener à soi. D'accord? Mais lorsque nous fixons notre regard sur le Seigneur, là on se rend compte qu'on a encore du chemin à faire avec lui. Et c'est en ce moment que certains vont dire que ouais, toi tu nous saoules avec tout le temps Jésus, la parole de Dieu. Et là tu vas te faire des ennemis, non pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que la nouvelle vie qui se manifeste en toi est contraire à l'ancienne vie qu'ils ont. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez remarquer que ceux qui sont charnels persécutent toujours ceux qui sont spirituels. Et même si des gens sont religieux, et parfois, quand ça les dérange, ils vont te dire, tu veux donner l'impression d'être spirituel. Frère, quand on a fini les 9 mois de venir dans ce monde-là, c'est tout à fait normal pour nous d'être charnel. C'est tout à fait normal de fonctionner par les 5 sens. Mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est tout à fait normal d'être spirituel. Si vous êtes charnel, ce n'est pas de la modestie, ce n'est pas de l'humilité. C'est que vous avez failli. C'est ce que j'ai failli. Il faut retourner aux Saintes Écritures. Et vous allez remarquer, dans la vie de ce jeune homme-là, vous vous souvenez, quand on lapidait Étienne, l'Écriture dit, les gens ont déposé leurs habits au pied d'un jeune homme appelé Saul, qui plus tard va devenir Paul l'apôtre. Vous, quand vous étudiez sa vie, vous allez voir comment Jésus arrive à transformer des vies. Il s'est soumis. Et il a même donné son secret dans Philippiens, disant que lui, il choisit de laisser tout ce qui relèverait de la chair, pour pouvoir se concentrer sur Christ. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. La vie chrétienne dépasse le fait d'aller à l'église chaque dimanche. Ça dépasse ça.
D'accord.
J'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arrive.
je ferai comme il veut. L'autre Laurent.
Oui.
L'autre Laurent. Comment faire comme il veut? Parce qu'ils ont, ils ont martelé cette phrase-là dans le refrain. Je ferai comme il veut.
Okay.
C'est ce qu'il y a de mieux.
Okay. Là, autrement dit, je ferai sa volonté.
Oui, mais comment?
D'accord? Je ferai sa volonté.
Oui.
Alors, premièrement, il faut comprendre. Il faut avoir connu la volonté de Dieu.
Un. Exactement.
Oui. Deux. Il faut avoir compris la volonté de Dieu.
Mm-hmm.
Et trois. Et décider de faire cette volonté.
C'est pas, c'est à ce niveau-là qu'on échoue, hein, j'ai l'impression.
Oui,
d'abord,
bien sûr,
on ne connaît pas la volonté de Dieu.
Mm-hmm.
On ne sait pas ce que tu as dit là.
Mm.
On n'est pas
dans cette connu la volonté de Dieu, ensuite compris
la volonté de Dieu
et maintenant décider parce que la balle sera dans notre camp.
Voilà.
D'accord.
On n'est pas, on comprend pas et on n'arrive pas à décider.
Oui, maintenant comment connaître la volonté de Dieu? C'est la question qu'on doit se poser.
Exactement.
La volonté de Dieu est révélée dans la parole de Dieu.
Mm-hmm.
Ça touche plusieurs domaines.
Mm-hmm.
D'accord?
Mm-hmm.
Et donc, on peut connaître la volonté de Dieu par la parole de Dieu. Ça, c'est un, c'est fondamental.
Mm-hmm.
Ensuite, connaître la volonté de Dieu par l'Esprit, la révélation de l'Esprit de Dieu dans notre vie personnelle et individuelle. C'est à cela que l'apôtre Jean fera allusion quand il dira « L'onction que vous avez reçue demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Il y a des choses qui concernent ma vie en tant que personne. Individuellement, d'accord, personnellement, que l'Esprit de Dieu me dira, me révélera, et ça, en ce moment, je n'ai pas besoin d'aller demander à mon pasteur, mais c'est à moi qu'il s'adresse, et il faut apprendre à connaître cette volonté-là par l'Esprit. Donc, l'élément fondamental ici, la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas négliger la parole, je sais pas. La parole de Dieu n'est pas la priorité de votre vie et vous allez prier pour dire à Dieu de vous révéler sa volonté. Il ne fera pas. Il ne fera pas.
Donc c'est un élément fondamental.
Oui, bien sûr.
Dans
la parole d'abord. Oui, bien sûr.
De la volonté de Dieu. Oui.
Et là, par exemple, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, que beaucoup ne comprennent pas, quand il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. En d'autres termes, dès que quelqu'un naît de nouveau, nous avons ce langage-là. D'accord? Nous l'appelons Seigneur. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Beaucoup ont l'impression que Jésus a dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Il a dit, n'entreront pas tous. Ça veut dire que de toute la foule de ceux qui m'invoquent comme étant le Seigneur de leur vie, de cette foule-là, tout le monde n'ira pas. Pourquoi? Il dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul. Voilà, c'est une question personnelle.
Mmh.
Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père, c'est la parole de Dieu.
Mmh.
Lorsque cette parole vient déranger un domaine de notre vie, et que nous refusons d'obéir à ça là, on peut faire des années, vous allez revenir à ça. Si vous refusez, en mourant, vous ne verrez pas la face de Dieu, parce que vous mourrez là, dans la rébellion. Lorsque la parole nous est prêchée, nous est enseignée, ou c'est aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir l'audio de la parole, et que nous écoutons, nous sommes engagés vis-à-vis de ce que nous avons entendu, de ce qui nous a été enseigné. Et l'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est que chaque dimanche, on va à l'église. Chaque semaine, on va à l'église. On écoute un message, et puis après, on fait 5 minutes de prière, on rentre chez soi. Frère, sœur, quand vous étiez allé à l'église aujourd'hui et qu'on vous a prêché, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Avez-vous été prompt à obéir à cette parole? D'accord, ça devient de l'habitude. On écoute, on dit ok, on a écouté ça la dernière fois, et puis allez, et puis on retourne chez soi. C'est comme une sorte de, je sais pas, comme on va chaque matin à la boulangerie pour aller chercher sa baguette de pain. C'est pas comme ça l'église, c'est pas la boulangerie. Quand on écoute la parole, on choisit d'obéir. Sur la face de ce globe-là, le globe terrestre-là, à un moment donné, des gens se sont trouvés des raisons de nous dire qu'il faut mettre des trucs sur le nez. Et vous allez voir comment les gens étaient superbement zélés à mettre ce truc-là sur le nez, et à paraître comme des chirurgiens, et ça et là. Mais le zèle avec lequel nous mettions les cache-nez, si nous appliquons ce même zèle à obéir chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, je peux vous garantir que ce que les gens ont dit à Antioche, on le redira encore. C'est-à-dire, si nous prenons sur nous, choisissons de dire, ok, chaque fois que j'écouterai la parole, autant que cela dépend de moi, je vais obéir à cette parole. Si nous vivons de cette façon, les gens diront, cette personne-là vit comme Christ. Cette dame-là, là, c'est une sainte. Les gens diront ça de nous. Donc, tu vois, il dit, c'est pas tous. Et dans Matthieu 12, maintenant, verset 50, il dit, mais quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut avoir connu la volonté de Dieu et compris la volonté de Dieu pour décider de la faire, n'est-ce pas?
Oui.
On donne un exemple. Lorsque le Seigneur a été baptisé, il s'est retiré dans le désert et il est revenu après. La Bible dit qu'il est revenu et qu'il est revêtu de la puissance de l'Esprit, n'est-ce pas?
Oui.
Nous qui sommes pentecôtistes, nous aimons cet aspect-là. Hein? Il est oint de l'Esprit, il s'est retiré et il est revenu maintenant et il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Gloire à Dieu, ça là c'est merveilleux. Et il est allé à la synagogue, il prend le livre d'Ésaïe et il lit. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est ça, non? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il a déroulé son programme. C'est bon, l'onction est une très bonne chose. Mais il y a autre chose au-delà de l'onction. La vie intérieure. Lorsque le Seigneur était dans le jardin de Gethsémané, vous vous souvenez, toute sa vie là, il a guéri des gens, donné à manger à des gens, délivré les gens et autres. Maintenant, dans le jardin de Gethsémané, la volonté du Père lui a été révélée. Donc, il a connu la volonté du Père. Il a compris la volonté du Père. Tu vas mourir pour l'humanité, mais ce sera une mort honteuse. On va t'humilier. Et il a vu. Et quand il a vu, là, c'est seulement qu'on peut comprendre pourquoi il a prié de la manière dont il a prié. Cette volonté-là lui a été révélée. Il a compris la volonté, mais là, il doit faire un choix. Et là, c'est là qu'il a dit à son Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est à ce niveau-là que nous qui le suivons, nous avons des problèmes. Il y a des moments où, dans notre vie, Dieu peut nous révéler sa volonté de façon spécifique et pointue. Et nous savons que c'est ce que Dieu veut. Mais parce que cela nécessite un effort de notre part, une détermination de notre part, nous choisissons de taire cette voie, de refuser de... Si Dieu vous révèle, par exemple, que mon fils, tu seras un pharmacien, et que tu finis ta vie en devenant un apôtre, tu n'as pas fait la volonté de Dieu, que tu ne rentreras pas dans le royaume. Parce qu'il dit, c'est ceux qui font la volonté du Père. Parce que dans ta vie précise, c'est ce qu'il a voulu de toi. Et en tant que Seigneur, quand il te dit quelque chose, il ne demande pas ton assentiment. Il ne demande pas mon assentiment. C'est ça la vie chrétienne normale. C'est ce qu'on nous a enseigné quand on était converti. Le christianisme qu'on a maintenant là, c'est christianisme de démocratie, de ceci, où il faut négocier des choses, des versets. Non, ça là ne nous plaît pas. Donc, dans notre église, nous, on n'aime pas ces versets historiques et préhistoriques. Nous voulons des versets modernes, tout ça. Non. Donc, ici, la vie du chrétien là, cette vie dont nous sommes en train de parler. Quand l'esprit te demande des choses, ce sera contraire à notre nature. Par exemple, on a vu la volonté de Dieu dans le cas de Jésus, n'est-ce pas?
Oui.
Maintenant, dans Romains chapitre 12, verset 17, là, il va parler de notre vie en société, de notre vie en famille, de notre vie au sein de l'Église et tout le reste. Oui. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Pour l'homme naturel, il est normal de rendre le mal pour le mal, de rendre le coup pour coup, n'est-ce pas?
Ça, c'est la volonté de Dieu révélée.
Oui, quelqu'un m'a fait mal, je lui fais mal. Mmh. Et même si j'ai été mieux, j'ai été plus ingénieux que lui en lui faisant mal, je suis content de lui avoir fait mal. Mais ici, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est une des parties de la vie chrétienne, ça. Autant que cela dépend de nous. Quand on vient dans notre maison, avec nos colocataires, avec tel, est-ce que les gens peuvent dire, oh, cette dame-là, oh, cette femme, oh, non. Ou bien, c'est des histoires des allusions que l'on fait. Vous savez, il y a plein de ces choses-là qui même dans l'église, dans les comités, les gens ne se parlent pas, on fait semblant. Il dit ici, là, autant que cela dépend de vous. La vie chrétienne, c'est une vie que nous menons en famille, dans l'église et en société. Et ça a une conséquence sur notre destinée éternelle. Parce que le résumé de la loi, c'est quoi? Aimer Dieu et aimer son prochain. Beaucoup connaissent Hébreux 12, verset 14. Hein? Recherchez la paix avec tous. C'est ce que dit ce verset de Romains 12. Recherchez la paix avec tous. Autant que cela dépend de vous,
Il n'y a pas querelle. On est chrétien, mais à côté, maintenant, on cherche à plaire à Dieu et à vivre dans la sanctification. Donc, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. C'est lui éviter la perdition éternelle. Si j'aime mon frère, j'aime ma soeur, ma tante, mon cousin, même le voisin, même l'étranger, si je l'aime et que je suis au courant qu'au-delà de cette vie, il y a un lieu de perdition éternelle. Il y a aussi un lieu de félicité éternelle. Si j'aime mon prochain, je vais chercher à tout faire pour lui éviter la perdition éternelle. Je vais lui témoigner l'amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur lorsque le Saint-Esprit est venu résider en moi. Donc, tu vois, tout cela est un package, comme on le dit souvent. Et le chrétien est tenu de pratiquer. Personne ne dira, non, et moi, mon pasteur n'a jamais prêché sur ça. Et donc, non, c'est écrit dans la Bible. Donc, si vous avez une copie de la Bible, ben vous êtes, que vous l'ayez lu ou pas, devant Dieu, vous êtes tenu responsable. Nous sommes tenus responsables.
D'accord. Ok. Toujours dans le refrain, il dit, j'ai l'impression qu'il a capitulé, hein. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Mm-hmm. Il a connu la volonté de Dieu. Il dit, maintenant là, je suis d'accord de faire ta volonté. Et il va plus loin, il dit, dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Mm-hmm. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Mm-hmm. La capitulation.
Oui, bien sûr. Ça prend. C'est au fil de notre marche qu'on se rend compte que le Dieu auprès de qui on s'est approché là, nous sommes tenus de lui obéir. Nous ne venons pas lui dire de faire notre volonté. Pourquoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, le vocable là ne tient plus tellement. Nous sommes en réalité des esclaves de Dieu. Et les esclaves n'ont pas de volonté. L'esclave ne fait que ce que son seigneur ou son maître lui dit. Mais aujourd'hui, on a une autre vision de la vie chrétienne. C'est pour cela que nous sommes dans l'état où dans lequel nous sommes. Nous sommes plus religieux que des gens qui marchent personnellement avec Dieu. Dans toutes ces églises-là, bondées les dimanches, vous avez plein de foules, premier culte, deuxième culte, troisième culte, quatrième culte, cinquième culte. Tout ce monde-là qui vient et qui part, pasteur. Avez-vous joué votre rôle pour que le frère X, la sœur Y, puisse savoir où il en est, où elle en est avec Christ son sauveur? Est-ce que vous lui avez montré comment communiquer? Parce que c'est toi seul qui sais comment Dieu te parle. Et tu viens parler au peuple. C'est très bon. Maintenant là, quand tu ne seras plus, qui va prendre la relève? Celui qui a parlé au jeune chrétien qui est devenu pasteur aujourd'hui, qui reçoit de Dieu pour venir prêcher, s'il n'enseigne pas à la génération qu'il a sous lui actuellement là, la catastrophe de l'église là, ce ne sera trop loin. Vous allez voir des choses, des scandales, parce que personne n'a pris ces jeunes vies pour leur dire, viens, je vais t'enseigner ce qu'on m'a enseigné. Et aider ces jeunes gens graduellement, comme Paul l'a fait à Timothée, ou bien comme Barnabas l'a fait à Paul, ou comme Ananias l'a fait à Saul de Tarse. Vous voyez, nous avons une responsabilité. L'essentiel n'est pas de dire, oui, nous sommes les anciens de l'église, quand l'église a commencé. L'essentiel n'est pas de dire ça. Qu'est-ce que nous arrivons à projeter dans la vie de cette jeune génération? Et quelle satisfaction avons-nous de voir, comme Paul par exemple, de voir un Timothée qui a grandi spirituellement et à qui il a confié la charge d'une église? Vous voyez un peu? Donc, tout ceci-là fait partie intégrante de ce dont nous sommes en train de parler. Apprendre à écouter Dieu, à connaître la volonté de Dieu et à obéir à la volonté de Dieu. La volonté, elle est manifeste dans la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu aussi est là pour nous aider à connaître cette volonté de façon pointue dans notre vie individuelle. Ce n'est pas une question de « moi je n'aime pas, moi je ne veux pas, moi je ne sens pas ». C'est ça là, quand tu dis ça, c'est « moi qui viens ». C'est le problème du « moi », le « moi » là. Quand Christ vient dans ta vie, il va mettre ce « moi » là hors contrôle pour que l'Esprit de Dieu puisse agir au travers de nous.
Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel et avec lui j'y arriverai.
Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier.
Nous revenons dans cette émission pour continuer par poser des questions et afin de pouvoir mieux comprendre ce qui est dit dans la chanson. Et nous allons passer à la question suivante. L'autre Laurent, que faire pour savoir ce que Dieu veut pour nous?
Okay.
Que faut-il faire?
Là, je l'avais dit, je risque d'être redondant.
Oui.
Il faut lire la parole de Dieu.
Lire
la parole de Dieu dans un esprit de prière, bien entendu.
Oui.
Étudier la parole de Dieu.
Oui.
Et méditer la parole de Dieu. Ça, c'est de différents niveaux.
Oui.
On n'a pas le temps pour expliquer tout ça. Oui. Donc, c'est l'occasion appropriée pour découvrir la volonté de Dieu. D'accord? On lit la parole, on étudie la parole, on médite la parole.
Oui.
Ici, je ne parle pas d'études bibliques à l'église, je parle d'études personnelles.
Études
bibliques à l'église, c'est bon, et il faut y aller, pour être instruit dans la parole de Dieu. Maintenant, individuellement, chacun doit apprendre à trouver un temps où il lit la parole, elle lit la parole, elle étudie la parole, elle médite la parole. Si vous êtes un locuteur œvophone, par exemple, parce qu'il y a la version élevée de la Bible, hein, je parle au Togolais, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à lire l'anglais, par exemple. Non. La langue que vous connaissez, et vous allez comprendre les tournures et autres, vous prenez le temps, vous méditez. Ne soyez pas complexé pour dire non, si j'arrive à lire l'anglais, c'est mieux. Non, si vous arrivez à lire en anglais, en français, dans d'autres langues, c'est bon, ça va vous permettre de mieux cerner certaines choses. Mais si la Bible existe dans votre dialecte là, ce sera grave même pour certaines personnes. La Bible existe dans ce que les blancs appellent à tort les dialectes, dans ta langue maternelle, et tu n'as même pas une copie de ça, mais tu as la copie des blancs, et tu lis ça tout le temps avec force et énergie. D'accord, mais dans tous les cas, il faut trouver un temps pour lire. Seul, je peux vous garantir, on découvre des choses quand on étudie la parole de Dieu. Seul avec Dieu. Tu lui poses des questions, quelques instants après, il te donne un verset qui va apporter plus de lumière sur ce que tu as lu. Donc, allez, après l'étude, la méditation et la lecture de la parole, vient maintenant le temps de dialogue. Le temps de dialogue, de conversation avec le Seigneur. C'est ce que nous appelons communément la prière. La prière, c'est pas juste le fait de faire sortir, non, c'est d'apprendre à parler à Dieu et attendre qu'il nous parle en retour. Ça aussi, ça s'apprend. Oui, mais si tu me dis comment ça se fait, demande à ton pasteur, puisque lui, il va chez Dieu, il pose des questions à Dieu, et Dieu lui dit, voilà ce qu'il faut dire à mon peuple, frère. Puisque tu donnes la dîme là-bas, tu donnes offrande là-bas, non. Et ton pasteur, c'est son rôle, ça, de t'instruire dans les voies de Dieu.
On peut également te poser la question, l'autre Laurent. On peut également te poser
comment?
La question. On peut également te poser la question.
Oui, mais moi, je suis en train de vous donner, c'est un survol que je fais. Tout ce que je dis là, les pasteurs savent. Ils savent. Donc, là, peut-être que ce serait une occasion pour un pasteur de trouver un temps pour faire un séminaire aux membres de son église, pour les jeunes, ainsi de suite. Comment on étudie personnellement la parole de Dieu? Comment on arrive à converser avec Dieu, à dialoguer avec Dieu? Ça va nous éviter certaines des erreurs que nous faisons parce que nous n'avons pas appris à communier, à converser, à dialoguer avec celui qui réside à l'intérieur de nous. Vous allez voir que souvent dans la Bible, on parle de se confier en l'Éternel, se confier en Dieu, mais c'est lui faire part de ce que j'ai sur le cœur. C'est aussi le fait de lui faire confiance, parce qu'il a le dernier mot dans ma vie.
D'accord.
Là, dans ce cas, un disciple, par exemple, ne dira pas, au vu de ce qui se passe là, je suppose que c'est la volonté de Dieu. Non, nous ne supposons pas que c'est la volonté de Dieu. On demande à Dieu, et il nous dit spécifiquement, l'Esprit de Dieu ne divague pas, il va te dire spécifiquement ce qu'est la volonté de Dieu dans un tel cas de figure.
D'accord.
Si c'est dans sa parole, elle est déjà, la volonté est déjà dans la parole. Donc, si tu vois ça dans la parole, il ne sert à rien d'aller demander à Dieu de te dire si c'est la volonté. Si c'est déjà dans la parole, c'est la volonté. Mais là, si ça concerne ta vie de manière plus pointue, tu le demandes et il va te le dire. Psaume 71, verset 5, car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse.
Très bien.
Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Quand tu prends un verset comme ça,
Si tu lis ça, c'est, l'auteur est en train de nous dire ce qu'est sa vie en tant que croyant. Vous voyez, donc c'est, ça dépasse le rituel religieux là. Bon, il faut se trouver dans tel coin, faire 5 minutes de prière, repartir. Non, c'est une vie dynamique, une vie intérieure qui se développe si nous nous soumettons à la direction de l'Esprit.
Très bien, nous allons passer à la deuxième strophe, l'autre Laurent. Et là, le compositeur déclare ne pas comprendre souvent pourquoi il doit passer par, par là. Il doit passer par ce moment-là d'incompréhension de ce qui lui arrive.
Ouais.
Voilà.
Bon, avec les explications qui ont été données jusqu'à maintenant, il y a un aspect que nous devons cerner, c'est que Dieu ne veut pas que nous soyons des savants voulant tout comprendre et tout connaître. Non.
D'accord.
Dans Deutéronome 29, il est dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Pourquoi? Dieu ne nous destine pas à tout savoir, à tout comprendre dans cette vie, non. Mais à lui faire confiance pour qu'il nous conduise jusqu'à la fin de notre marche ici-bas. D'accord? Alors, si on comprend ça, vous prenez par exemple le cas d'Adam.
Oui.
D'accord?
Oui.
Le diable lui dit, si tu manges, tu consommes le fruit défendu, tes yeux s'ouvriront. Tu vas connaître, tu vas savoir, tu vas percer le mystère, le percer le mystère de la vie. Ils ont été bernés, lui et sa femme. Mais Dieu dit, vous mourrez. Le diable te dit, non, vous serez des savants et des immortels. C'est ce à quoi le serpent fait allusion. Vous serez comme des dieux. Donc, vous serez savants, vous connaîtrez tout, vous serez immortels, vous n'allez jamais mourir. Mais c'est le contraire. Ils sont profondément ignorants. Et là, ils sont dans un état où est-ce que ce qui nous arrive. Quand vous prenez Abraham, Dieu lui dit, je te montrerai la terre. Il ne savait pas au début. Il devait faire confiance à Dieu. Vous prenez Saul de Tarse à sa conversion. On lui dit, va dans la ville, on te dira ce que tu feras. Il a grandi comme ça avec Dieu. Vers la fin, Dieu lui dit, écoute, il faut que tu ailles à Rome pour témoigner de moi. Et là, lui-même témoignera en disant, maintenant, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Donc, tu vois, tout ça, là, nous montre que c'est un cheminement. La vie chrétienne est un cheminement. D'accord. Et nous devons faire confiance au Seigneur.
Oui, on y va. Est-ce une mauvaise chose de chercher quand même à comprendre ce qui nous arrive?
Non. C'est chercher à savoir, à comprendre est tout à fait normal. Mais attendre la réponse, c'est ça qui est difficile. D'accord, je veux savoir, je pose la question à Dieu. Et Dieu maintenant veut te donner la réponse. Je dis non, en 2-3 mouvements là, s'il ne répond pas, je suppose que... Non, on ne suppose pas. C'est apprendre à attendre la réponse de Dieu, à connaître la direction que Dieu veut donner, parce que cette direction sera, dans tous les cas, contraire à ce à quoi nous avons pensé. Psaume 32, verset 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ouais, l'école de l'esprit, si vous permettez, c'est un cours en présentiel, parce que l'esprit réside en vous. Et c'est un cours continu, pratique. Et c'est un cours modulaire aussi, parce que ça prend des sujets différents. Fruit de l'esprit, la bonté, si la bonté n'est pas dans votre vie, l'esprit va œuvrer de manière à ce que vous parveniez à ce point. Donc, c'est de façon séquencée. Et à chaque fois, c'est à moi de décider d'obéir pour continuer. Donc, ça permet la formation du caractère de Christ, la nature de l'agneau dans l'homme régénéré que nous sommes. Parfois, nous posons au Seigneur la question, pourquoi Seigneur? Pourquoi? Mais il va te dire, mais parce que je suis ton Seigneur. C'est parce qu'il est Seigneur qu'il décide sans demander notre avis. Donc, si tu lui demandes, pourquoi Seigneur? Il te dira, parce que je suis ton Seigneur.
D'accord. L'autre Laurent, vers la fin du couplet 2, et il dit, et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix, il a toujours la solution. Alors, ta conclusion.
Oui, là...
Il a toujours la solution.
La solution, oui, la solution, parce que si vous arrivez à écouter sa voix dans sa parole et par la révélation de l'esprit, là, vous comprendrez que ce ne sera pas de la résignation, mais au contraire, c'est l'expression de la confiance absolue que j'ai en Dieu, que vous avez en Dieu. Quand vous prenez le cas de Job, au début, il ne comprenait pas. Il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, n'est-ce pas?
Oui.
Mais vers la fin, maintenant, il a compris. Quand vous lisez Job 42, verset 3 et au verset 6, il a compris et il s'est repenti. Ce n'est qu'après cette expérience maintenant que le livre a été écrit.
Ouais.
D'accord. Donc Job sait maintenant que en tant que disciple ou en tant que croyant, le Seigneur dirige, oriente nos vies. Et sous la nouvelle alliance, nous ne supposons pas, en disant que non, le Seigneur a donné. Il y a des moments où, avant que la chose n'arrive, il te révèle. Et tu as la responsabilité maintenant de faire ce que tu dois faire. Nous sommes dans un combat spirituel. Les coups sont réels. Si vous continuez à supposer, comme on dit en Milan, nous l'avons. Ça veut dire que des choses vont arriver. Non pas parce que l'Esprit n'a pas révélé. Il t'a révélé, mais tu as banalisé les choses de l'Esprit. C'est pour cela qu'on devient victime en ce moment.
Merci l'autre Laurent. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette émission. On se reverra la semaine prochaine. Au revoir et à dimanche prochain. Bye bye.